Monsieur le ministre, parlez-vous largué ? La petite ville avait été le plus illustre de ses enfants. Le matin même de ce qu'est le jour de septembre, l'express de Paris avait déposé sur le quai de la gare en guirlandée de feuillage, de la gare poudreuse comme un moulin, bien qu'elle fût protégée du mistral par un rideau de cyprès. Théophile Mathieu Gallon, président du conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes. Le général et le préfet, grand et de blanc, attendaient près de la bibliothèque, exceptionnellement fermée. Le chef de gare était lui-même sanglé dans une redingote neuve. Le maire, l'adjoint et les conseillers, tout le monde était à son poste, et les hommes d'équipe, endimanchés, avaient rangé à la hâte des caisses de melon, dont l'odeur persistante se développait dans la chaleur de la journée. L'antique cité provinciale avait bien fait les choses. 50 dragons arrivés la veille de Tarascon encadraient, sur la place, les landaus du ministre et des autorités. Le train s'était arrêté quelques minutes et le président du conseil, suivi de son chef de cabinet, était descendu, le visage un peu fripé par une nuit de voyage. Les souhaits de bienvenue échangés, on avait traversé la salle d'attente dont le poêle supportait un vase de fleurs. Des commandements militaires avaient retenti et le soleil avait fourbi l'acier des sabres que tiraient hors de leur fourreau les dragons de l'escorte, curieux, malgré la discipline, de voir le grand homme et tournant tous un œil sous la visière des casques où la lumière dorée du beau matin étincelait. Se souciant peu des recommandations de leur père, les filles du chef, les demoiselles de la gare, ainsi que les appelées la petite ville, deux grandes filles brunes à profil de chèvre, ouvrirent largement les volets derrière lesquels elles lorgnaient les lieutenants qui caracolaient en attendant le train, et une guirlande tomba sur les épaules d'un adjoint effaré, tandis que les deux belles filles riaient dans le soleil qui vaporisait leurs cheveux frisés et rebelles. Tour de ville, réception à la mairie, remise des décorations, inauguration d'un nouveau groupe scolaire, apéritif d'honneur, rien n'avait manqué, et fatigué par la matinée et se réservant pour le banquet du soir dans les jardins du Café de la République, le ministre avait déjeuné dans l'intimité chez son plus vieil ami, le docteur Ferrière, célibataire comme lui. Le président du conseil avait tiré de sa valise un veston d'alpaga, et ils avaient déjeuné seuls, dans la salle à manger du médecin, assombris par les stores baissés, sur lesquels un platane, devant la fenêtre, se découpait comme un bac dessin sur un écran. Les dernières cigales crépitaient. Le melon mûr embaumait la petite pièce bourgeoise et tranquille. Le vin blanc, le vin de Clairette, rafraîchissait dans un seau plein de l'eau glacée du puits. Le docteur était heureux d'avoir son ami et fier de loger un ministre. Et à l'heure du cigare, tous deux s'étaient mis à s'interroger et à rappeler le passé. « Et Marinetou, disait le docteur, Marinetou qui ramassait de la feuille de mûrier chez ton oncle, hein, t'en souviens-tu? Et Rosine, la blonde de Castandel, et Isabellette, dis, monsieur le président. » Puis les souvenirs de Paris montèrent, les souvenirs du vieux Paris impérial, des brasseries, des maîtresses oubliées, de la jeunesse lointaine. Mais le ministre rêveur semblait voir sous l'écran du store, dans le feuillage de l'arbre, le visage de Marinetou ou d'Isabellette, la courte échelle des Magnanarelles, un bas rustique bien tiré, gantant une jambe fine, et l'adolescent qu'il était sous les rameaux dans une poussière de soleil. Puis, en versant un petit verre d'un armagnac qu'il gardait pour cette visite, le docteur avait continué. « Et les deux filles de l'herboriste, Valentine surtout, y penses-tu quelquefois ? Moi, je me console à peine de n'avoir pas épousé Herminie, malgré nos parents. Était-elle jolie ? Et avons-nous assez passé devant leur porte ? D'ailleurs, elle vit toujours. Elles ont une solide aisance et tiennent encore la boutique de leur père. Elles sont demeurées vieilles filles. T'en souviens-tu ? Je suis sûr que Valentine, malgré sa dévotion, lit les journaux à cause de toi. Tiens, lorsque le soir tombera, vêtu comme tu l'es, nous sortirons. Personne ne nous reconnaîtra. Nous irons jusqu'à l'herboristerie de la rue des Fontaines. Tu auras toujours le temps de t'habiller. Le banquet n'est qu'à 8h30. Théophile Mathieu Gallon se souvenait. Valentine avait été peut-être son seul amour, mais les familles, brouillées depuis longtemps à cause de politique, n'avaient pas voulu entendre raison, et les deux jeunes gens avaient été séparés. Le travail, la vie de la capitale, sa fortune naissante, d'autres femmes avaient pris le futur ministre. Il était rarement revenu au pays, étant député de Paris depuis 20 ans, et aujourd'hui, dans ce décor qu'il avait oublié, on lui rappelait les premiers éveils de son cœur et ses premières émotions d'amour. Le soir descendit. Quelques lanternes vénitiennes s'allumèrent dans les arbres devant les cafés, et le président du conseil, en veston d'alpaga et son chapeau de paille sur les yeux, sortit avec le docteur Ferrière. Ils allèrent à travers la ville. Les femmes dînaient seules, car presque tous les hommes étaient inscrits pour le banquet. Mais les rues n'étaient pas éclairées, et les deux amis n'eurent qu'à éviter les cafés à cause de leurs lanternes coloriées. Le ministre s'arrêta devant la maison de Maître Nogarède, le notaire dont il avait été le clerc, et ils se moquèrent comme de collégiens du vieil homme maniaque. Au coin de la rue des Fontaines, l'émotion qu'ils éprouvaient jadis les étreignit. Rien n'avait changé. Un forgeron tirait toujours le soufflet dans sa caverne sombre pleine d'étincelles d'or. Les magasins avaient seulement d'autres propriétaires et les enseignes étaient à peine repeintes. Ils ne parlaient plus. Ils étaient devant l'herboristerie. Une lampe éclairait. Les bocaux s'alignaient sur des rayons avec leurs étiquettes et quelques souffles d'air devaient venir de l'intérieur, car les paquets d'herbes se balançaient lentement au plafond. La boutique était vide et la rue entière était parfumée d'une odeur douce, aromatique de plantes sèches. Le ministre poussa la porte. Une cloche résonna longtemps, argentine et vieillotte. Le docteur pénétra derrière lui. Autour d'eux, dans le silence, les herbes salutaires embaumaient. Indifférente, une vieille dame arriva, c'était Valentine. Le président du conseil demanda un cornet de sauge. Elle le servit, examina les poids légers sur le plateau de la balance, retira quelques brins de sauge, plia, tendit le paquet et compta la monnaie. En silence, ils sortirent, la cloche résonna derrière eux et les herbes embaumèrent moins fort. Théophile Mathieu Gallon s'habilla, dîna, président le banquet de 1000 couverts dans le jardin du Café de la République, sous les arbres où pendaient des lanternes vénitiennes. Mais lorsqu'à la fin de son toast, il parla de sa ville natale, de ses souvenirs, de son attachement à ce coin du monde où il était heureux d'être ce soir, ses plus proches voisins s'aperçurent que ses yeux étaient pleins de larmes. On mit cela sur le compte de l'émotion provoquée par les acclamations et les sympathies de ses compatriotes. Son discours n'avait pas duré plus d'un quart d'heure, et le grand orateur, habitué aux plus terribles interruptions, le vieux parlementaire que rien ne démontait et qui était à son aise à la tribune de la chambre, ainsi qu'un curé de campagne dans sa chaire, avait expédié rapidement son allocution parce qu'en cherchant son mouchoir, il avait touché dans sa poche le petit cornet de sauge flétrie, sèche et odorante, comme les souvenirs de ses premières amours. C'était, Monsieur le Ministre, par Léo Larguet.